VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Angola, le président José Eduardo dos Santos dit avoir l'intention de se retirer de la vie politique en 2018. Il dirige le pays d'une main de fer depuis 47 ans. Idriss Fall.
Âgé de 73 ans, José Eduardo dos Santos a annoncé devant le comité central du MPLA sa décision de quitter la vie politique en 2018. Son mandat expire l'année prochaine et il n'a pas dit pourquoi il resterait au pouvoir une année de plus. Investi chef de l'État à la mort d'Agostinho Neto en 1979, il a concentré tous les pouvoirs. Après 27 ans de guerre civile fratricide avec l'UNITA de Jonas Savimbi, ce marxiste s'est tourné vers l'économie de marché. Sa propre famille s'est beaucoup enrichie. Selon le magazine Forbes, sa fille Isabelle dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique. Ces dernières années, M. dos Santos a musclé la répression face à la grogne sociale. La manne pétrolière s'est réduite pour le deuxième producteur d'or noir du continent. En une année, le kwanza, la monnaie nationale, a perdu 35% de sa valeur face au dollar. En juin dernier, 17 jeunes militants qui demandaient son départ ont été arrêtés et leur procès se déroule presque à huis clos.
Élection présidentielle au Congo-Brazzaville, 5 candidats de l'opposition, Pascal Tsatsi Mabiala, André Okombi Salissa, Guy Brice Parfait Kolela, Claudine Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko ont créé leur propre commission électorale, dénommée Commission technique des élections CTE. Objectif, assurer que le dépouillement des voix aux prochaines présidentielles soit juste et équitable. Au Burundi, départ en trombe des travaux de la commission Vérité et Réconciliation. Cette commission s'est déjà entretenue avec les étudiants des universités publiques et privées de Bujumbura et Ngozi. Mais pour l'opposition burundaise, la dite commission est tout sauf indépendante. Au micro de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, on écoute Charles Nditije, le président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises.
Pour nous, c'est un non-événement dans un pays meurtri par des crises à connotation génocidaire. Il y a un pilier extrêmement important, c'est celui de la justice. Cette loi a complètement occulté la dimension judiciaire. Il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de paix sociale si cette dimension justice n'est pas présente dans ce mécanisme. C'est plutôt pour nous un moyen d'occulter la vérité parce que les gens ne diront pas la vérité, dès lors qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la justice de réparation par rapport au forfait au Burundi, des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui sont inamnistiables et imprescriptibles.
Charles Nditije, président du parti de l'indépendance UPRONA, formation politique non reconnue par les autorités burundaises. Soudan du Sud maintenant, dans un nouveau rapport dénonçant notamment les exactions commises par le gouvernement sud-soudanais, l'ONU tire la sonnette d'alarme et fait état de viols, exécutions et destructions systématiques dans le pays. La situation des droits de l'homme au Soudan du Sud est parmi les plus horribles du monde, dit le rapport. Le point avec Saloua Jafari.
Depuis la petite ville de Bantu au Sud-Soudan, le coordinateur des droits de l'homme de l'ONU, David Marshall, en dit plus.
Les principales conclusions sont que les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ont continué en 2015. Ils ont principalement été perpétrés par le gouvernement. Nous avons également constaté des violations par l'opposition. Ces violations identifiées en 2013, 2014 et 2015 sont similaires aux massacres des civils, des déplacements, des pillages, des enlèvements, des viols. En somme, ils terrorisent la population civile.
Pour l'ONU, l'État porte la plus grande responsabilité des violences pour l'année 2015, étant donné l'affaiblissement des forces d'opposition. Le rapport parle d'une politique de la terre brûlée menée par le gouvernement et assure que selon des sources crédibles, des groupes alliés au gouvernement sont autorisés à violer les femmes en guise de salaire. Le Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis juillet 2011, après des décennies de conflits avec Khartoum, a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président de fomenter un coup d'État. Plus de 2 millions de personnes ont été chassées de chez elles et des dizaines de milliers tuées par la guerre et les atrocités dont les deux camps se sont rendus coupables.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, l'opposant Ama Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic de bébés, ne participera au second tour de l'élection présidentielle le 20 mars face au chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou que s'il est remis en liberté. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Issa Daouda Abdoulaziz, porte-parole et directeur de campagne de Ama Amadou, au micro d'Eric Manirakiza. On l'écoute.
Nous ne retirons pas notre candidat. Au départ, il y avait des rumeurs et une polémique sur le retrait ou pas retrait. Non, nous, maintenant, nous ne désisterons pas. De toutes les façons, nous n'avons plus la possibilité de désister. Cependant, le maintien de notre candidature ne veut pas dire forcément que nous allons partir aux élections du second tour si nous n'avions pas les garanties telles que nous les avons revendiquées dans notre déclaration. Ça commence par la libération de notre candidat, c'est clair, net et précis. Et deuxièmement, c'est les gages de crédibilité de ces élections-là. Parce que lorsqu'on parle de proclamation des résultats, on parle de proclamation solennelle et publique. Mais au Niger, il n'y a pas eu encore, à ce jour, une proclamation solennelle publique des résultats. Et il n'y a pas non plus eu, dans l'arrêt que nous avons lu de la Cour constitutionnelle, il n'a jamais été mention des recours en annulation que nous avons formulés.
Quelle est la concession que vous êtes prête à faire si votre candidat est libéré et qu'entre-temps, les revendications ne sont pas résolues Est-ce que vous y allez ?
On ne votera pas.
Issa Daouda Abdoulaziz, porte-parole et directeur de campagne du candidat d'opposition Ama Amadou au Niger. La lutte contre le djihadisme dans le Sahel, faire front commun contre le terrorisme et l'extrémisme. Tel est le but de la rencontre du G5 Sahel qui se déroule à Bamako au Mali, une initiative du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD souhaite que des dispositifs communs soient mis en place pour gérer les zones frontalières. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La sécurité et la lutte antiterroriste sur les frontières sont les préoccupations des pays du Sahel. La plupart de ces pays font face à Acmi, Al-Mourabitoun et leurs alliés. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères.
Sur la question de sécurité, pour nous permettre de mieux maîtriser ces flux frontaliers, il y a aussi la nécessité quand même de ne pas faire des frontières, des barrières. Il faut faire en sorte que les communautés frontalières puissent mutualiser.
Abdoulaye Marine Dieng, directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD.
L'investissement majeur, c'est dans le développement. Et ces zones, il faut le dire, ont été négligées. Les investissements n'ont pas beaucoup atteint ces zones. Et la gouvernance est un peu faible dans ces zones-là. Donc si on investit dans la cohésion sociale, dans la bonne gouvernance et dans le développement, on va éliminer un peu la propension à l'utilisation des jeunes dans ces mouvements terroristes.
Cette rencontre de deux jours de Bamako doit faciliter la mise en place des dispositifs communs pour mieux gérer les zones frontières dans les pays du G5 Sahel. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Conflit en Syrie, des élections présidentielles et législatives doivent être organisées dans le pays sous l'égide de l'ONU dans les 18 mois à compter du 14 mars. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère spécial onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura. À l'ordre du jour, des négociations pour mettre fin au conflit syrien prévues du 14 au 24 mars, selon les déclarations de l'émissaire onusien à l'agence de presse russe RIA Novosti. Un nouveau gouvernement inclusif, une nouvelle constitution et de nouvelles élections dans les 18 mois. En attendant, la guerre en Syrie va entrer dans sa sixième année. La révolte populaire contre le régime du président syrien Bachar Assad, qui a commencé le 15 mars 2011, s'est muée en une guerre dévastatrice. Michel Joseph.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, a comptabilisé 271 138 morts. Parmi eux figurent 79 106 civils, dont 13 500 enfants et 8 760 femmes, un bilan donné le 23 février 2016. Celui-ci n'inclut pas les milliers de disparus dont on ignore le sort, opposants dans les geôles du régime et membres des forces loyalistes capturés par les rebelles et les groupes djihadistes, dont l'organisation État islamique. Dans un rapport publié en février, des enquêteurs de l'ONU ont affirmé que des milliers de personnes détenues par les différentes parties ont perdu la vie, accusant le régime de Damas d'extermination de prisonniers.
Et pour terminer, présidentielle de novembre aux États-Unis, côté républicain, le milliardaire Donald Trump a obtenu aujourd'hui un deuxième ralliement de poids dans la course à la présidence. Le docteur Ben Carson, ex-candidat aux primaires et seul noir à briguer la magistrature suprême, a confirmé son soutien à Donald Trump lors d'une conférence de presse à Palm Beach, en Floride. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.